Eh bien, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Ce matin, ça va être une étude. Alors, si vous n'aimez pas les études, allez écouter quelqu'un d'autre. Seigneur, je te prie que tu bénisses ce moment et que mes frères et sœurs puissent comprendre toutes les finesses et comprendre à quoi ça sert de savoir ces choses. Merci Jésus. Amen. Alors on salue nos amis suisses. On aimerait bien avoir des nouvelles de Maureen. Je sais pas, elle vous a écrit à vous, non?
Non,
moi non plus. Ben, un petit mot, ça nous ferait plaisir. Et puis, ben, à tous les autres frères et sœurs là-bas dans le Valais. En janvier 2023, j'avais commencé une étude sur le yahvisme. J'ai enseigné 4 dimanches de suite à ce sujet. Le 1er janvier, le 8 janvier, le 15 janvier et le 22 janvier 2023. Et comme peu de chrétiens semblaient s'intéresser à ça, alors j'ai arrêté. Mais là, il y a un chrétien particulier et puis d'autres aussi qui m'ont écrit en me disant qu'ils aimeraient bien continuer à étudier ça, ça les intéresse. Moi, ça me passionne. J'ai étudié 2 ans pour en arriver à comprendre ces choses-là. Et bon, je partage avec qui veut bien écouter. Et ce matin, je partage avec vous. Je vais donc continuer. Vous savez, 2 ans, c'est pas rien du tout, hein, à passer dans mon bureau, à lire, à chercher, à écouter, tout. Alors, je vais pas enseigner cette étude tous les dimanches parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens, ça leur passe à 50 km au-dessus de la tête, ça les intéresse pas. Quand ils se trouvent, par exemple, en face d'une généalogie, ils sautent, ils lisent pas. Ils croient qu'il n'y a rien là-dedans que des noms. Il n'y a pas que des noms. Il y a beaucoup de mystères cachés là-dedans. Et je crois, vu ce qui se passe en ce moment en Israël, que je dois au Seigneur, et je dois à ceux qui cherchent, de dire ce que je sais. Je ne répéterai pas aujourd'hui tout ce que j'ai dit au début de l'année 2023. Je pense que vous avez tous compris qu'on a un site qui s'appelle révélationbible.fr en minuscule, sans accent, révélation bible en un mot, révélationbible.fr. Là, vous avez une case tout en haut quand vous arrivez sur le site, une case qui s'appelle message, vous cliquez dans message. Et là, vous arrivez dans les petits casiers 2023, 2022, 2021, 2021. Vous cliquez dans 2023, vous arrivez sur une autre page, et là, vous cherchez les fameuses dates, le 1er janvier, le 8 janvier, le 15 janvier, le 22 janvier. Je vous recommande de commencer par la prédication du 1er janvier. Et puis ensuite, celle du 8, du 15 et du 22. Et aujourd'hui, ça va être la suite. Alors, si vous n'avez pas écouté ou si vous avez oublié ce que j'ai dit lors de ces 4 dimanches, je pense que c'est bien que vous réécoutiez, parce que sinon vous allez rater des trucs, vous allez mal comprendre ce que je vais vous dire ce matin. Et je pense que si vous le faites, vous saurez ce dont vous avez besoin pour comprendre, donc ce que je vais vous dire ce matin, ce qui se passe en ce moment. Parce que nous sommes à la veille de la venue de Jésus, non pas dans les nuées du ciel visibles de tous, mais il vient pour enlever son Église. Et il ne vient qu'au rétablissement de toutes choses, au temps du rétablissement de toutes choses, selon Actes chapitre 3. Donc les choses doivent être rétablies, mises en ordre, guéries, parce qu'elles ont été un peu abîmées par les diverses religions. Ensuite, nous savons que juste après l'enlèvement viendra, se manifestera, se dévoilera l'Antichrist, que les ignorants prendront pour le Christ, et beaucoup de chrétiens même le prendront pour le Christ, tellement que ça sera extraordinaire. Et puis Jésus reviendra pour régner, il détruira, n'est-ce pas? Il enfermera le diable pendant 1000 ans et tous ses suppôts. Et puis ensuite ils seront relâchés, il y aura une guerre, et puis ensuite ça sera la fin. Alors l'autre jour je regardais une vidéo, c'est un pasteur qui disait « C'est bientôt la fin du monde !» Non, c'est pas bientôt la fin du monde. Déjà, faut que Jésus vienne enlever son église, ensuite que l'Antichrist vienne régner quelques années, ensuite Jésus règne pendant 1000 ans. Donc, voyez, si Jésus revenait aujourd'hui, ça serait pas avant 1007 ou 1008 ans que le monde serait détruit et remplacé par un nouveau monde, un nouveau ciel. Donc, arrêtez avec la fin du monde, laissez ça aux témoins de Jéhovah et aux autres illuminés qui comprennent tard pour barre. Bon, cela dit, vous savez donc que je continue mon étude sur le yahvisme. Il faut l'avouer, les efforts des auteurs bibliques pour obscurcir les traces des origines de leur religion ont été immenses. Ils ont laissé quelques indices, quelques indices. Moïse a été conduit par Dieu pour écrire la Genèse, ça il n'y a aucun doute. Et il parle d'Abraham en Genèse 12, en coupant définitivement le lien avec les Kénites, avec Caïn. En fait, c'est le site de Timna, c'est un site archéologique découvert il n'y a pas très longtemps, quelques années, qui ouvre la voie pour comprendre quelque chose dans tous ces mystères. On a retrouvé, enfin les archéologues ont retrouvé, vous savez que Jésus dit quand les pierres crieront, eh bien les pierres crient par l'archéologie et les choses se mettent en place. Et ils ont retrouvé là, sur le site de Timna, vous prenez Google, vous tapez Timna, vous aurez des photos. Ils ont retrouvé les restes d'une tente sanctuaire dans une aire minière, là où il y avait des mines. Et la présence de fourneaux à l'entrée de cette tente qui révèle que la métallurgie était impliquée dans leur culte. Or, la métallurgie ou les forgerons, constituent un groupe vraiment à part. Mais pas seulement dans ce coin-là, mais un peu partout, dans toutes les civilisations de cette époque et d'autres. Les forgerons, c'était un clan. C'était des tribus dont les membres vivaient dispersés parmi les populations. Vous avez une connaissance, une science, n'est-ce pas, partagée. Ils étaient comme les Kénites, les descendants de Caïn, dont Moïse. Si vous regardez dans la Bible, là, j'ai la Bible, la Nouvelle Bible avec les notes et les études, et je regardais ça ce matin, c'est assez significatif. Ils vous disent l'origine des 12 tribus. Voilà, l'origine des 12 tribus. Alors, c'est là, à la page 7. Alors, vous avez Adam, Caïn, Abel, 7. Abel, on sait qu'il est mort. 7, depuis 7, il y a eu Noé, Sem, Cam, Japheth, etc. Et ça descend, voilà. Mais Caïn, Lémec, et pouf, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Parce que Moïse n'en parle pas. Mais ils ont continué à vivre, et il y en a encore. Hein. Il y en a encore. Nous allons voir, en clair-obscur, que la Bible contient des informations révélant l'existence privilégiée entre Yahvé et les forgerons. C'est bizarre. Ainsi que avec les producteurs de cuivre de l'Araba. On va lire un texte dans Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset, non pas 7, mais 17. Voilà ce qui est dit. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Pas le même Enoch, celui qui a écrit son livre, mais du côté de Caïn, il y avait lui des Enoch, il y en avait beaucoup, c'est comme les Dupont. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Donc, Caïn est le premier à avoir construit une ville. Dieu déteste les villes. C'est écrit aussi. Enoch eut pour fils Irad. Irad eut Mehujael. Mehujael eut Methushael. Et Methushael eut Lémec. Lémec prit deux femmes. L'une s'appelait Ada, l'autre Tsila. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. De son côté, Tsila mit au monde Tubal-Caïn. Il forgeait tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez attention à ce que je dis, c'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé, cette fois, Lémec le sera 77 fois. Ensuite, on vous parle de la naissance de Seth, puis Caïn. Terminé. Tubal-Caïn est un des quatre descendants de Caïn, celui qui a tué son frère Abel. Et Moïse précise que la métallurgie, c'est pas simplement un événement de circonstance. S'il l'a écrit, c'est parce que ça a son importance. C'était l'aboutissement de la lignée de Caïn. La métallurgie. Les autres descendants de Lémec forment aussi l'apothéose de la lignée de Caïn. Naama, la sœur de Tubal-Caïn, avait la spécialité de la poésie et de la danse. Jubal, le demi-frère de Tubal-Caïn, est le père des musiciens. Genèse 81, on vient de le lire. Et cette association entre métallurgie, danse, poésie et musique était très liée dans l'Antiquité, pas seulement avec ces gens-là cités là, mais un peu partout dans toutes les civilisations. Par exemple, en Égypte, Hathor, qui était la déesse des mines, était aussi maîtresse des arts poétiques, de la musique et de la danse. Il y avait du Caïn là-dessous. En Égypte. À Chypre, c'est quand même pas à côté, c'était une terre de production intense de cuivre, et à Chypre, il y avait un dieu du nom de Kinvrus. Kinvrus, le nom de Kinvrus a été changé par les Grecs, comme par exemple Yeshua, ça a été changé en Jésus, ben Kinvrus a été changé aussi, ils ont pris une origine plus ou moins hébraïque, qui est Kinor. Eux, les Grecs, ils l'appelaient Kinav. Et puis c'est devenu, à cause de Kinor. Kinor signifie la lyre, la musique. Et le patron de l'île de Chypre et de sa métallurgie abondante, reconnue par l'histoire, est aussi le dieu de la lyre et de la poésie. Ouais. Et du Caïn là-dessous. Et vous voyez comment les choses se regroupent ou se dispersent partout sur cette terre. Maintenant, Jabal, l'autre demi-frère de Tubal-Caïn, est considéré comme l'ancêtre de ceux qui vivent sous les tentes et conduisent des troupeaux. On vient de le lire dans Genèse 4:20. C'était donc des nomades. Mais avant lui, il y avait Abel. le frère de Cain qui élevait déjà du bétail, on trouve ça dans Genèse 4, 2. Et Cain a tué Abel, donc voilà, c'est Jabal qui a pris ce boulot-là. Maintenant, Tubal et Jabal sont deux noms formés de la même racine hébraïque qu'on peut prononcer Ible, Y-B-L, Ible. Cette racine Ible désigne la production du métal. Donc, pour faire court, avec la mention des quatre enfants de Lémec, la généalogie de Cain révèle que la métallurgie, dans toutes ses expressions, y compris artistiques, est bien la spécialité des Kénites, c'est-à-dire des Caïnites. En arabe, le terme Caïn désigne le forgeron. C'est bizarre ça, hein? Encore aujourd'hui. Lisons 2 Samuel 21, 16. On va dire 15. Les Philistins, qui est encore eux, firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance. Et Jibi Benob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos. Il était muni d'une épée neuve. Enfin, quelqu'un est arrivé au secours de David, c'est déterminé. On lit que ce personnage était un descendant de Rapha. Clair-obscur de la Bible. Rapha signifie en hébreu géant. Philistin. Géant. Cet homme était un descendant des géants dont Genèse 6 parle. Il y en avait déjà avant, il y en a eu après. Et il y en a encore. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des géants qui mesurent 350 mètres. Non, ça signifie que ce sont des gens qui tombent dessus. La réalité du terme, voilà comment on devrait traduire le terme. Identifier Cain comme le premier métallurgiste revêt une très grande importance. Il est alors l'homologue biblique de Prométhée. Vous avez peut-être entendu parler de Prométhée, ce héros civilisateur, celui qui a dérobé le feu sacré de l'Olympe pour l'offrir aux hommes. C'est dans la légende Prométhée, voilà, mais si vous voulez, il est... toutes ces légendes pompent dans la Bible les réalités qui ont eu lieu véritablement. Et la Bible en fait le premier homme à avoir fait une offrande à Yahvé. Savez-vous ça, que Cain est le premier à avoir fait une offrande à Yahvé? Parce que dans nos Bibles, c'est écrit à l'Éternel. Mais si vous regardez dans les textes hébraïques, c'est Yahvé. Et vous trouvez ça dans Genèse 4, 3. Puis ensuite, Abel est venu, puis il a aussi fait une offrande. Puis c'était le début du problème. Maintenant, le territoire kénite, originel, est localisé dans l'Araba. Alors, on va lire dans Juges 1, 6. Vous voyez, je vous ai dit que ça va peut-être vous casser les pieds, hein, mais moi, ça m'intéresse. J'aime bien fouiller. Juges 1, 16. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des Palmiers, c'est Jéricho. Cherchez, vous trouverez, c'est Jéricho. Jusque dans le désert de Juda, au sud, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Alors, les Kéniens. La Bible nomme Araba Arad. C'était pour les versions. C'est comme Yeshua, Jesus, Jésus. Et Arad, c'est le territoire édomite. Ça a à voir avec le bouffeur de lentilles. Vous vous rappelez, Ésaü? Hein? T'es pas tellement nom de sainteté. Jéthro, qui est appelé Réuel dans Exode 2, 18, est un des principaux du clan d'Édom. On trouve ça dans Genèse 36, 4. Et c'est pourquoi il était grand prêtre de Madian. Kénaz est un des clans kénites. Il est aussi affilié à Édom, Genèse 36, 11 et 15. Dans Amos 9, 11, 12, voilà ce qui est dit. Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines, je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom. Et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Toutes les nations qui se réclament de son nom, c'est-à-dire nous aussi. Il est question d'intégrer à Israël une religion venue, et puis une composante religieuse venue d'Édom. Je vous rappelle que la Bible affirme que la fondation d'Édom est, le fondateur d'Édom, c'est Ésaü, fils de Jacob. Dans Amos, on apprend que Édom est une nation qui invoque le nom de Yahvé. Israël sans Édom n'est pas Israël. Israël, c'est Jacob au départ. Et c'est là le point le plus important. Cet oracle d'Amos associe la stabilité politique théologique d'Israël à l'intégration de la composante yaviste de Édom. Il n'y a pas que ça, le mont Zéhir. Si je vous dis le mont Zéhir, ça vous dit quoi? Le mont Zéhir chanté par les Israélites, comme le lieu où Dieu se révèle sur le territoire d'Édom, bah tiens, on va le lire, Deutéronome 33, 2, 4... L'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Zéhir. Il a resplendi des monts de Paran. Il est sorti du milieu des saintes troupes. Il leur a de sa main droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Et puis on peut lire Juges 5, 1, 16. Non, Juges 5, 4, pardon. Alors, 5-4. L'Éternel, quand tu es sorti de Zéhir, tu t'es avancé venant des champs d'Édom. La terre a tremblé, le ciel a ruisselé, les nuages ont déversé leurs eaux. Les montagnes se sont liquéfiées devant l'Éternel. Le Sinaï a tremblé devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qu'est-ce que je vous disais? Le mont Zéhir, chanté par les Israélites, cité là par Moïse et par les juges, eh bien, c'est le mont Sinaï qui se trouve dans Édom. Quand on est allé en Israël, on voulait aller au mont Sinaï et c'était pas possible. C'était dangereux. Je vous explique pas pourquoi, vous savez. Alors, on n'a pas fini avec la guerre au Moyen-Orient. Il va se passer encore des choses. Et Gaza. Qui sait ce que la Bible en dit? Très peu de chrétiens. Très peu de chrétiens. Savez-vous que Samson a eu les yeux crevés à Gaza? Genèse 16, 21. C'est là que restent les Anakim au temps de Josué, Josué 11, 22, ils n'avaient plus ailleurs. Ils étaient là, dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que c'était les Anakim? Vous savez pas? Vous avez un ordinateur, vous tapez Google, et puis vous cherchez Anakim, et puis vous verrez. Qui sont les Philistins, qui sont des éternels ennemis d'Israël? Qui sont les Anakim? Comment se fait-il que Jéthro adorait Yahvé? Il y avait la montagne de Dieu qui était là, dans le pays d'Édom, alors que Moïse lui-même ne savait pas qui était Yahvé. Qui es-tu? Qu'est-ce que je vais dire au peuple? Comment? Quel est ton nom? Il ne savait pas, il ne connaissait pas. Abraham ne connaissait pas Yahvé non plus. Son père était un fessier païen. Et c'est pas Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton pays pour aller au Canaan. C'est Terak, le père d'Abraham. Un jour, beau jour, une mouche l'a piqué. Il a dit, tiens, on s'en va. Fou. Il a pris toute sa famille, ils sont partis pour aller à Canaan. Puis ils sont arrêtés à Charan. Puis là, la Bible nous dit, il est mort. Mais il ne nous dit pas comment. La Bible nous cache certaines choses, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu changea le nom de Jacob en Israël? Est-ce que Jacob connaissait Yahvé? Il s'est battu avec Yahvé. Dans Genèse 32, il devait connaître Yahvé, puisque Abraham, il l'a connu, Yahvé, en Genèse 12. Abraham, Isaac, Jacob. Savez-vous comment Dieu s'est révélé à Abraham? Non, vous ne savez pas. Parce que la Bible nous dit juste que Yahvé a dit à Abraham de quitter son pays, c'est-à-dire Charan, pas Ur. Ils avaient déjà quitté Ur. C'était Terach, le papa, qui avait pris tous ses gamins, ses bonnes femmes, ils étaient partis. Puis arrivé à Charan, là il est mort. Mais vous savez comment il est mort, Terach? Non, la Bible ne dit pas. La Bible nous dit juste que Yahvé dit à Abraham de quitter donc Charan. Genèse 12. Mais c'est le père d'Abraham qui a donc quitté Ur en Chaldée pour se rendre à Canaan et ils se sont arrêtés donc à Charan. Pourquoi? Le père d'Abraham, Terak, était un idolâtre, il ne connaissait pas Yahvé. Abraham non plus. Au chapitre 11, vous avez l'histoire de la tour de Babel. Et pouf! Tout d'un coup, au chapitre 12, vous avez Yahvé qui parle à Abraham. Mais il n'y a aucune explication. Rien. Que pour X0, que dalle, Tintin. Rien du tout. De Babel à Abraham, il s'est écoulé des siècles. Abraham a vécu 1812 ans avant notre ère. Or, la tour de Babel date d'environ 3500 ans avant notre ère. Vous voyez, ça fait 17 siècles entre Genèse 12 et Genèse 11. Pouf! 17 siècles qui passent à l'as comme ça. Pourquoi? Et puis même là, la Bible se contredit. Vous pourrez trouver des passages où les dates ne sont pas tout à fait les mêmes. Les auteurs de la Bible cherchent à nous cacher que Yahvé était adoré bien avant qu'il ne se révèle à Abraham ou à Moïse. C'est Moïse qui a écrit l'histoire d'Abraham. Il était adoré par un peuple caïnite, un peuple de forgerons, poètes, danseurs et musiciens. Ça, c'est une chose étrange, n'est-ce pas? Jéthro était grand prêtre, on ne nous dit pas de quoi. Il était grand prêtre de Madian, mais grand prêtre de quoi? De Yahvé. Et je vais vous le prouver. Si ça vous intéresse, j'y reviendrai un de ces dimanches, mais écrivez-moi. Si vous ne m'écrivez pas, je ne vous le dirai pas. Je garderai ça pour mes frères et sœurs de la communauté. Mais si ça vous intéresse, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, alors je continuerai cette étude, pas tous les dimanches, parce que je sais que ça n'édifie pas, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais je vous dis toujours, ça va devenir pire. Et pourquoi ça va devenir pire? Eh ben, ça a à voir avec le caïnite, ça a à voir avec toutes ces histoires, ça, c'est très important. Mais la Bible nous le cache, elle nous le montre au clair-obscur, de façon à ce que ceux qui ne doivent pas voir ne voient pas. Alors, est-ce que vous voulez être de ceux qui voient? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide et vous conduise. J'en parlerai un de ces dimanches si vous m'écrivez. Au revoir et Dieu vous garde. Bye.